Poulipop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxmo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
I put a spell on you.
Votre attention à tous. Aussitôt que le sas sera verrouillé, silence. Jacques et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie.
I want you to get up right now and go to the window. Open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore!
Comme ça, Money, tu penses que ton stuff c'est la grosse affaire?
Laisse-moi te dire une chose, qu'avec ce stuff-là, les petits dealers sont mieux de prendre leur trottinette.
C'est cet inconscient-là qui est le plus dangereux.
Nice shooting, sir. What's your name?
Perfect.
Je suis une ordure! Je suis pourri! Je suis
lépreux! Je suis vilain! Ne partez pas!
Because you're mad!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 7e Antiquaire, votre émission de cinéma aux proportions cosmiques. Mon nom est Jean-Michel Bertion, mais aujourd'hui, ça me fait un terrible plaisir d'être en ondes pour vous parler, notamment pour vous remercier de votre immense réaction par rapport à l'émission hommage qu'on a fait la semaine dernière sur Isao Takahata. J'ai vraiment eu des très beaux commentaires. Puis après une si longue absence, ça me gêne un peu d'avoir recevoir vos compliments de cette manière-là, mais pour chacun qui l'a fait, je vous remercie énormément. C'est peut-être malhabile quand on se parle en personne, mais maintenant que je suis dans un anonymat relatif ici derrière la console, je peux vous dire à quel point est-ce que j'y tiens, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment gentil de votre part de vous manifester de cette manière-là. Cette semaine, on va jouer une reprise, et pour les gens qui se rappellent du jeu, il y a le jeu des dés avec les reprises. Je vais vous expliquer que je passe une reprise aujourd'hui parce que la semaine prochaine, je suis déjà un peu en train de préparer, là, mais j'ai quand même passé une grosse semaine, fait que je vais commencer peut-être plus ce soir. Je vous prépare une émission sur la quadrilogie, en fait, de qu'on appelle la série des Thief in the Night. Donc, c'est une télésérie, pardonnez-moi, c'est une série de films évangéliques chrétiens qui a commencé en 1972 avec un film intitulé A Thief in the Night. Je vais essayer d'écouter les quatre films d'ici la semaine prochaine. Il y a énormément de références bibliques. Je vais peut-être même me retaper un peu du grand livre pour faire une émission sur, en fait, cette conspiration paranoïaque. En fait, c'est du conspirationnisme apocalyptique biblique. Donc, j'ai très, très, très hâte de faire cette émission-là. Parlant de très, très, très hâte, je suis content aussi de la réaction que vous avez eue face à la rediffusion de l'émission les rois du box-office avec Julien Bernatchez et Gary Ouellet qui se sont rencontrés ici même pour la première fois pour parler de box-office. Ça vaut la peine de mentionner. Il n'y a pas beaucoup d'émissions à vocation cinéma ici à Choc, donc je suis très content d'en avoir une troisième, parce qu'il faut quand même considérer qu'il y a les oubliettes. Maintenant, il y a box-office avec Julien, qui est une émission d'une demi-heure, qui est diffusée le jeudi vers midi. Et le 7e Antiquaire, je pense qu'on a un très beau triumvirat avec ça. Le premier épisode de box-office est sorti aujourd'hui. Vous pouvez aller écouter ça. Vous devriez y retrouver cette espèce de charme ineffable de Julien Bernatchez qui nous parle de box-office. Donc, la famille de commentateurs cinématographiques vient de grandir. Nous sommes enfin trois. On peut se faire une game de Donjons et Dragons. Parlant de Donjons et Dragons, je mentionnais le jeu qui, si vous n'êtes pas familier, je vais vous le présenter aujourd'hui, familier. Le jeu des dés, c'est qu'essentiellement, pour les reprises, en fait, j'ai constaté qu'on avait énormément d'émissions dans le backlog et que quand je ne pouvais pas préparer une émission, il n'y a rien qui m'empêchait de ne pas passer une vieille émission. Mais à chaque semaine, je m'en trouvais à dire, bon, c'est quelle émission, nanana, puis j'avais pas le temps. Donc, le jeu est que je vais rouler 2D6 ici même. La dernière fois que j'ai joué, je me suis dit, je m'amènerais des vrais dés physiques et j'ai oublié. Mais pour la prochaine fois, je vous promets qu'on va pouvoir avoir l'effet physique, là, le vrai événement. Vous allez l'entendre. Mais pour le moment, je vais me fier à un site web. Donc, je roule les dés. En fait, c'est 2D6. J'ajoute à la date. Donc, on a commencé l'émission en 2006. Mais bon, ici, il est indiqué que les archives vont commencer en 2007. Je vais rajouter ceci. Je vais rajouter le nombre roulé. On va avoir notre année et ensuite, on va faire les mois. Et ensuite, on va faire les jours. Puis on va arrondir pour les jours parce que c'est sûr que ça tombera pas exactement sur un jour. Donc le premier roulage, c'est, on est à 6, donc 2, ah non, attendez, on est à 10. Donc on se retrouve en 2017. Wow, ça va être une émission assez récente. Je roule encore, on se retrouve au 7e mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet 2017. Ça a dû être une très, très belle année. Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh ouais, non, mais là, j'ai comme un petit problème, là, parce que je vais pas passer la partie 2 avant de partir la partie 1. Mais que faire? Roulons! Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer, puis je vais aller chercher 3 des 10. Non, attendez, pour aller à 32, 28, je vais faire 5 des 6, puis bon, on espère que ça tombe pas le 31. Donc, je roule 5 des 6, je me retrouve avec 9, 10, 12, 18. Qu'est-ce qui est le plus proche du 18? C'est le 13. On a Caméra Lucida avec Ariel Esteban Caillé, qui nous commente les films de Fantasia qui sont passés l'année dernière. Malheureusement, parce que c'est une émission qui est beaucoup plus reliée au festival, ce que je décide, j'utilise mon veto cinématographique ici. Vous n'aurez jamais rien vu de la sorte ici même en ondes. Quelqu'un, animateur qui, avec une instance tyrannique, décide de changer la décision, malgré que ça vous prive de la mielleuse et délicieuse voix érudite de Ariel Esteban Caillé. On va mettre Watership Down et Plague Dogs, les adaptations de Richard Adams par Martin Rawson, que je sais que c'est une émission que David affectionne particulièrement, et moi de même, soyons honnêtes, je trouve que c'est une très, très, très belle émission. C'est un bel épisode, parce qu'on a parlé de très au truc, mais de trucs un peu dérangeants, si on peut dire. Donc, on va aller écouter à l'instant Watership Down et Plague Dogs sur les ondes de choc.ca. À la semaine prochaine, tout le monde. Je vous aime énormément. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition, toute fraîche, toute neuve, du 7e Antiquaire, une émission de cinéma aux proportions cosmiques sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertion, mais nous avons l'honneur et le privilège de recevoir M. Donald Pleasance en ondes. Bonjour, M. Donald Pleasance.
Bonjour, comment ça va? Hi, how are you doing, Jim?
J'essaie même pas.
Non.
C'est correct, je t'aime.
Ben, c'est parce que je me dis combien de temps il faut que je me lance là-dedans, puis...
Tu sais,
après ça, j'essaie de réfléchir, OK, c'est quoi la voix de Donald Pleasance?
C'est un peu ça, la joke, ouais. J'étais comme...
C'est pas comme si tu me disais Christopher Walken ou quelqu'un, tu sais, qu'à la limite, tu peux essayer de mimiquer, mais bon.
Tu pourrais danser ta vie.
Je bourrais danser.
Comment tu vas, David?
Ça va bien, et toi?
Ouais, moi, je vois très bien.
Excellent.
Je viens de boire un café, là, je suis en train de virer à l'intérieur.
Pour une des rares fois que je fais un 7e antiquaire. Ben, en fait, je fais souvent plein de 7e antiquaire avec des bouteilles d'eau, mais occasionnellement, on a l'habitude d'aller prendre un verre avant, et des fois, je le ramène ici et tout ça. Et là, pour une fois, on n'a pas eu le temps de faire ça, et j'ai décidé de prendre un latte matcha concentré.
Oui. OK, fait que là, t'es en train de virer fou en
l'intérieur. Fait que là, déjà que j'étais un peu comme sur l'adrénaline du show, là, ça me met encore plus. Fait que là, je vais vivre l'expérience de c'est quoi être sur l'adrénaline encore plus pendant que je fais le 7e antiquaire. Ce qui, à date, c'est pas pire. Ça me relaxe pas, mais ça va être spécial. Ça va fitter avec, je pense l'état
pas
d'âme, ouais, dans lequel moi j'étais, ou enfin, comment je perçois deux personnages dans les films qu'on va parler qui sont particulièrement anxieux.
C'est ça.
Et sur le bar schizophrène.
J'ai pas l'impression que c'est bon pour toi là, d'être dans cet
état-là. Écoute, on va y aller à fond.
C'est certain qu'on va y aller à fond. On va tellement y aller à fond parce que une des révélations par rapport à l'émission, c'est que c'est mon roman préféré.
Oui, parce qu'on parle de Watership Down et de Plague Dogs, donc deux films d'animation qui ont été réalisés par Martin Rosen.
Oui, qui devrait être inscrit sur mes notes, qui sont de ton côté du studio.
Oui, qui est réalisé.
Oui, je reviens.
Et qui sont dans les deux cas adaptés par des livres, en fait, de Richard Adams, donc du même nom, Watership Down et The Plague Dog. Watership Down étant devenu quand même quelque chose d'iconique. Et The Plague Dog, qui est passé un peu plus sous le radar, mais qui est absolument essentiel. Donc, deux films qui vont un peu... sensible, qui traite, disons, de thématiques qui se complètent, même si les deux films n'ont pas nécessairement le même ton. On est quand même dans une même zone. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais le goût qu'on les fasse. Tu m'as parlé souvent que tu aimais beaucoup le roman. Je me suis dit, lançons-nous-y là-dedans, parce que j'avais le goût de revisiter Watership Down, mais surtout, j'avais le goût de découvrir The Plague Dog, que j'avais juste vu des extraits, et ça a été une révélation.
Ben, c'est ça, c'est particulier parce que Plague Dog, pour moi, était totalement inconnu.
Il est pas très connu, en effet. C'est pas compliqué, il est pas distribué ici.
Ben, c'est ça.
Si tu peux le commander, je pense, sur l'Amazon, ça va être un import anglais. Il y a juste eu un DVD tout récemment en Angleterre. Ça n'a pas été super distribué. Il y a pas vraiment de version, je pense, sous-titrée, ce qui est déjà pas évident parce que ça, avec les accents et tout, j'avais un petit peu de la misère des fois. Mais, puis c'est aussi que c'est assez bleak, là, c'est assez dark comme film. Donc, ça, moi, ce que je trouve intéressant, qu'on ose aller jusqu'au bout de sans compromis avec l'animation, au lieu de se dire, ah oui, mais c'est de l'animation. Surtout à l'époque où ça a été fait, il y avait la pression de vous. On fait des films pour la famille et tout.
Oui.
Mais non, à l'image des films comme Grave of the Fireflies, c'est des films qui vont jusqu'au bout de leur idée, qui, oui, ça va être triste, ça va être dur, mais ça va être ça.
Ben, c'est que c'est. C'est des films, par exemple, qui tentent d'outrepasser les limites de l'animation. C'est de dire que cinéma d'animation est un genre limité et qu'on ne devrait pas vraiment faire plus que du cinéma familial avec.
Oui, dans le sens... C'est sûr que depuis le début, il se fait des films expérimentaux, il se fait toutes sortes de choses en animation, mais disons, dans les studios qui visent la distribution dans les salles, souvent, c'est plus délicat, on essaie moins. C'est sûr qu'on est début des années 80, on est aussi à l'ère où il y a Ralph Bakshi qui fait aussi ses trucs de son côté. Donc, il y a quand même des choses qui se font, mais c'est quand même... Ça se compte sur une main, mettons.
Mais c'est ça. Sur cette... Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que sur cette main-là, il n'y a que des classiques. Ouais. C'est ça qui est spécial, c'est que c'est un petit corpus.
Mais
surtout...
les films ont marqué et sont devenus maintenant des références.
Oui, exactement. En faisant la recherche pour l'émission, j'ai découvert un film d'une coproduction allemande-danoise qui est un film néo-noir avec des chats réalisé par un homme qui s'appelle Michael Schaak. Oh. Le film, c'est Félidé.
Okay.
C'est un film de 1994. C'est Chinatown avec des chats, essentiellement.
Okay.
Je trouve ça super intéressant, mais l'autre exemple saillant, c'est aussi l'émission qui a mené à cet épisode-là, c'est quand on a fait Secret of Nim.
Oui,
que tu disais comme oh shit, Nim, faut qu'on fasse Plague Dogs, nanana.
Oui, ben je pense que c'est à cause de ça. C'est quand j'ai vu Nim, parce que le film Nim commence avec je pense qu'on rentre dans l'espèce de laboratoire où il y a des rats qui ont des expérimentations et tout. Puis là, j'étais comme waouh, ok, ils vont vraiment, on va le montrer, puis ils vont à fond là-dedans. Puis là, ça m'a fait penser, c'est vrai, on n'a pas fait de Plague Dogs. Je savais déjà que ça traitait d'expérimentation sur les animaux, la cruauté envers les animaux, etc.
Oui.
D'une certaine manière, autant que. Que Watership Down va dans d'une autre manière un peu ça va dans une autre zone, mais disons que Plague Dog affronte de front ce sujet-là entre autres, et ça m'avait fait penser, puis tout le long que j'écoutais Plague Dog, j'ai comme fait I want Secret of Nim, je sais plus c'est quelle année Secret of Nim, je pense que c'est en même temps, hein? C'est 82 ou
non, Secret of Nim est plus tard.
Plus tard?
Ouais, je pense que c'est fin 80.
À ce point-là?
Non. Ouais, j'ai vivement l'impression que c'est plus tard.
Okay. Parce que... En tout cas, disons, dans ce cas-là, voyons-le comme Plague Dog pouvait ouvrir une porte à aller vers ça.
Mais
petite parenthèse, c'est le fun de savoir que Plague Dog, C'est le, un des premiers films, si c'est pas le tout premier long métrage sur lequel Brad Bird a fait de l'animation.
je l'ai, okay. Ouais. En fait, c'est trois personnes, parce que, bon, il a été à la fois fait en Angleterre et aussi aux États-Unis. Puis les trois personnes qui étaient du studio états-unien, donc à San Francisco, Brad Bird en faisait partie. Mm-hmm. Un monsieur qui s'appelle Phil Robinson et Rita Scott.
Ouais.
Rita Scott qui est la dame qui a fait l'animation de la chasse des chiens dans Bambi. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui est une...
Qui était spécialisé dans les chiens qui bougent.
Ou dans les chiens qui bougent et dans les scènes extrêmement dérangeantes pour l'enfant. Ouais, ouais. Elle l'a très bien fait.
Parce que c'est vrai que l'animation dans The Plague Dog est quand même impressionnante au niveau justement du mouvement animalier. C'est très réfléchi. Les tics que peuvent avoir les chiens à certains moments. Il y a vraiment des trucs quand même impressionnants. Et Brad Bird, j'imagine tout le monde... si vous allumez pas, Brad Bird, c'est celui qui est derrière...
The Incredibles,
genre Mission Impossible numéro 4.
Ah oui, c'est vrai.
C'est lui qui a réalisé ça. Et qui a aussi fait bon nombre d'épisodes des Simpsons, un petit peu après ça, oui. C'est lui qui a fait probablement les meilleures époques Simpsons. C'était lui un des principaux animateurs des épisodes.
Ah, OK, je savais pas.
Il y a vraiment un cheminement intéressant, Brad Bird.
Puis parlant de cheminement, puis c'est là où... Bon, Watership Down a été créé avant Plague Dogs. Je pense qu'il y a quelque chose. Bon,
faut peut-être faire une intro sur c'est quoi ces livres-là et cet auteur-là. Peut-être là, tu pourrais plus.
Si tu me le permets, je me suis un peu viré fou à vouloir lire Plague Dogs.
Pis ça va être génial parce que moi, j'ai beaucoup envie de t'entendre parler sur le roman de Watership Down, entre autres, et des différences.
Ouais, c'est plutôt que. Richard Adams, d'abord et avant tout, c'est un Britannique, en fait, qui faisait. En fait, il a toujours crédité ses filles dans la création de ses œuvres parce que c'est un homme qui faisait énormément de voyages en automobile avec ses enfants et qui leur racontait des histoires pendant la route. Watership Down émerge de ce type de voyage-là. J'ai l'impression que Plague Dogs aussi. C'est un grand, grand, grand conteur qui s'est avéré être un très bon écrivain aussi, qui réussit à écrire des trucs extrêmement intéressants avec... des animaux tout en ne faisant aucun anthropomorphisme. C'est ici où, ce que, pour moi, il y a la grandeur de Watership Down est dans la possibilité de raconter une histoire qui évacue les référents humains. C'est un livre extraordinaire. Je vous le décris en quelques lignes. Watership Down, c'est l'histoire de Hazel et Fievel. Fievel, c'est une souris. Hazel et Fievel qui sont dans un terrier, donc un down. Et il y a un moment où Fievel est assailli de prémonition. Il est convaincu que leur terrier ne survivra pas et qu'il va avoir quelque chose d'extrêmement terrible qui va arriver. Le truc, c'est que biologiquement, des lapins ont un système nerveux central tellement fragile qu'ils ne peuvent pas quitter. C'est une contrainte biologique chez un lapin. Puis c'est drôle, la semaine dernière, j'étais chez une amie à Jadia qui a un lapin. Puis Pénélope, sa mère, me racontait comment est-ce que le lapin a une constitution extrêmement énervée, nerveuse. L'affaire, c'est que parce que ces lapins-là ne peuvent pas quitter, il n'y a pas beaucoup de lapins qui veulent écouter les avertissements. Et ils finissent par dire « Non, non, t'es un prophète de malheur, il n'y a rien qui va arriver de mal, et ainsi de suite. » Mais les rêves sont de plus en plus convaincants, puis ça fait en sorte qu'ils se ramassent, une petite gang, à avoir à quitter et de se construire un... de faire une épopée, parce que c'est rien d'autre qu'une épopée.
Pour se trouver un autre lieu d'habitation.
Exactement. C'est essentiellement l'histoire. Mais...
Cette journée-là n'est pas facile.
C'est ça qui est extraordinaire. C'est que, au-delà d'une journée, il n'y a pas de, il y a pas de référent temporel, parce que les référents temporels sont les nuits. On pourrait faire un compte des nuits, mais il y en a bien plus qu'on peut croire. Le personnage qui sera le plus célèbre, c'est Kihar, c'est l'oiseau. Ils sauveront un oiseau à un certain point et l'oiseau deviendra instrumental plus tard lorsqu'il y aura une invasion militaro-industriel qui va se faire au niveau des lapins. La distinction, en fait, le film est extrêmement bien fait. C'est pas pour rien que c'est un classique, c'est pas pour rien que Criterion a fait une édition récemment, c'est pas pour rien qu'il y a une télésérie qui a été développée par la suite, par le même réalisateur. C'est pas pour rien qu'il y a une télésérie qui va se faire, qui est en tournage actuellement par les studios Netflix pour un autre Watership Down qui va sortir l'année prochaine.
Un film?
Non, il va y avoir une nouvelle télésérie produite par Netflix avec Gemma Arterton, Nicolas Hoult, Ben Kingsley qui joue Woundworth et James McAvoy. Tu sais, c'est comme une méga production.
Animation.
Ouais, okay. Qui s'en vient. Ben, en fait, tu te poses la question puis j'en ai aucune idée. S'ils font un real-time, je capote. Ça va être extraordinaire. Mais ça va être débile s'ils font genre avec des vrais lapins, je vais...
Puis ils font parler.
Ah, c'est ce que je capoterais. Ça serait malade. Bon. Le truc, c'est que dans le roman, on développe énormément par rapport à l'interprétation que les lapins font de leur environnement. Puis va de même dans Plague Dogs. Puis c'est ce qui fait que c'est des livres extrêmement complexes à lire. C'est que le décodage, tu sais, c'est pas... Je vais prendre un exemple par rapport à Watership Down. Les humains, c'est les White Sticks. Puis on faut vraiment se rendre. Puis en fait, je pense, je vais même pas dire que je l'ai deviné par moi-même. Là. C'est dans le film que j'ai compris que les White Sticks, c'est les cigarettes. Les gens de la campagne en Angleterre avaient toujours une cigarette au bec. Donc les humains, c'est les bâtons blancs. Et ils laissent tomber leurs bâtons blancs partout par terre.
Oh, oui, oui, oui.
Tu vois comment que ça peut devenir assez compliqué. Oui. Un automobile dans Watership Down, c'est un roundoudou.
Ouais.
Parce que ça fait roundoundoundoundoundoundou quand ça se promène. Mm-hmm. Il y a plein de trucs comme ça. On comprend pas c'est quoi la rivière noire.
Mm-hmm.
C'est une rivière noire sur laquelle tu peux marcher.
Ouais.
C'est la route. Mais la rivière noire, c'est un gamble de la croiser. Parce qu'il y a un roundoudou qui arrive, puis tu sais pas où c'est qu'il va arriver.
Ça venait pas avec un lexique, le livre, à la fin?
Non, c'est ça qui est assez extraordinaire, puis qui est assez complexe.
Parce que je pense qu'il y a eu une suite à Watership Down que Richard Adam a faite. C'est comme dans les années 2000 quelque chose?
Ouais, ben en fait,
c'est... Je pense que ça venait avec un genre de lexique pour aider...
Il y a une édition augmentée de Tales of El Arraira.
OK, OK.
Puis The Tales of El Arraira, c'est la Bible des lapins.
Ouais.
Parce que dans la cosmogonie des animaux, leur Jésus, si on peut dire, c'est un lapin qui s'appelle El Arraira, et leur Satan, c'est un lapin qui s'appelle The Black Rabbit of Inley. Mm. El Arraira est le lapin qui aura fait le dernier tour pour avoir les faveurs du Dieu Soleil. C'est le Dieu Soleil qui donne aux animaux leurs attributs. Puis il y a un point où El Arraira, il est caché la tête dans un terrier parce qu'il est en conflit avec le Dieu Soleil. Et le Dieu Soleil lui dit, ben il est le temps que tu reçoives ta bénédiction. Puis il dit, tu peux pas me bénir actuellement, il faut que tu bénisses mes fesses. Puis c'est pour ça que les lapins courent vite.
Mm-hmm.
C'est que le lapin a l'avantage sur toutes les autres espèces, sur tous ses prédateurs, qu'il est capable de s'échapper de tout.
Mm-hmm. Parce qu'il y a aussi la malédiction d'être la proie de tous.
Exactement.
Puis ça, c'est un truc qui, dans le film, qui m'avait marqué. J'étais comme, c'est drôle à quel point ils ont choisi l'animal le plus vulnérable, pratiquement, mm-hmm. dans la nature. Parce que oui, c'est vrai que c'est l'animal qui tue ou il mange personne, il est herbivore, comme plein d'autres animaux, mais il est aussi un animal de proie pour tellement d'autres animaux
que
finalement, leur vie, c'est juste survivre, puis se sauver, puis se cacher, puis être stressé tout le temps. Puis je trouvais ça... Moi, ça m'a marqué. C'est drôle à quel point on pense... Enfin, ça me faisait réaliser des choses par rapport au lapin, même si le film va au-delà de ça.
Ben,
mais tu sais, juste en partant, j'étais comme, OK, ça va être une vie rough, là, qu'on va suivre là, la vie de lapin. Puis,
la menace est immense.
Elle est tout le temps là.
Mm-hmm. Puis là, ce que tu... en fait, pour arriver à ta question, la distinction qui existe entre le film et le livre, c'est cette idée qu'on ne passe pas autant de temps à décortiquer les systèmes. Parce qu'il y a deux terreaux à laquelle ils font face.
Mm.
Puis, dans le film, parce que le film est seulement une heure et demie, on se retrouve à avoir quelques parties du Tales of El Arraira. On se retrouve à avoir vraiment, vraiment, vraiment une intégration assez malhabile, je dirais, du Down of the Silver Wire. Down of the Silver Wire est vraiment, moi, je le trouve incroyable. C'est qu'il y a un moment où ils prennent fuite, ils trouvent un autre terreau de lapin, mais ils sont tous extrêmement tranquilles. Ils sont tous extrêmement paisibles et gros. Ils sont tous très, très, très bien nourris, mais un peu Wicker Man. Okay. Un peu, tu sais, t'es sans genre, pas tout à fait là.
Mm-hmm.
Pis c'est que, on le découvre, en fait, celui-là, je vais vous le spoiler, je ne spoilerai pas le dernier. On découvre que leur lieu, leur habitat est très très proche d'une ferme et le le White Stick, l'humain de cette ferme-là, leur donne toujours des carottes, mais une fois de temps en temps, il y en a un qui disparaît. C'est un espèce d'échange tacite.
Ouais, ouais, ouais.
Les lapins sont comme...
Je vous fais grossir, mais de temps en temps, j'ai faim.
Vous avez la... vous allez... Il n'y a aucune menace. Il n'y a plus de prédateurs. Vous allez être nourri. Vous allez être logé sur ma terre.
Ouais, ouais.
Une fois de temps en temps, il y a un collet. That's it.
C'est l'élevage biologique.
Pis c'est ça. Puis dans le down lui-même, tous les lapins sont comme, ouais, garde, on a la paix. Une fois de temps en temps, on perd un cousin. Ça arrive, ces trucs-là. Puis t'es juste, waouh, c'est super creepy dans le livre. Le deuxième...
À quelque part, en même temps, ils n'ont pas à être stressés jamais.
C'est ça, exactement. Puis tes voix, là, quand toute la gang, parce qu'ils sont super maganés, ils viennent de traverser une rivière, puis deux...
Ouais, c'est comme la vie n'est que souffrance.
C'est ça, puis là, tes voix, comment qu'ils décrivent, c'est comme tout leur pelage est beau, puis reluisant, mais ils sont un peu morts derrière les yeux. Ils sont comme, ouais, t'es trop un peu bizarre. Ouais, mais ils sont crissement en forme. Ou comme, ils sont bien entretenus,
tu sais. Ouais, ouais. Ils sont dodus, mais en même temps, ils sont pas alertes.
Ils sont weird, tu sais.
Parce qu'ils ont plus besoin.
T'as une belle description par rapport à ça, tu sais. Il y a énormément de comparatifs qui sont faits en Richard Adams puis Orwell, notamment à travers Animal Farm. Mais c'est pas des métaphores. C'est ça qui est extraordinaire dans les livres de Adams, c'est que c'est pas des métaphores. C'est vraiment des récits animaux.
Mm-hmm.
Tu sais, comme les Ishmael, la série des trois livres Ishmael.
Ça, on s'en sort pas. Ben, tu sais, c'est ça. On raconte la vie d'un lapin qui s'échappe, qui a à partir d'un terrier.
D'un terrier, oui.
Je parce pense que puis dans le film, j'imagine que c'est la même chose dans le livre. C'est parce qu'il y a un complexe qui est d'habitation ou industriel ou peu importe qui va se construire. En fait, on comprend qu'on voit qu'il y a des trucs de construction qui arrivent, qui sont en train de passer avec leurs machines, qui fait que ça fait juste bloquer et enterrer tous les terriers. Et ils sont en train de mourir bloqués en dessous. Fait qu'il faut qu'ils se sauvent puis qu'ils se construisent carrément d'autres trous ou qu'ils en trouvent un autre.
C'est ça. Ça, c'est quelque chose que le film permet puis que je te dis, moi, je l'ai jamais lu dans le livre.
OK.
C'est comme la construction.
On comprend qu'il y a une menace, mais on ne sait pas c'est laquelle.
C'est ça, parce que c'est du point de vue des lapins.
Ouais,
il dit qu'il y a un moment où tout le monde va s'étouffer.
Oui, oui. Mais en tout cas, on comprend que pour que ça arrive, il faut que quelque chose soit bloqué. Mais comme,
il y a une menace.
C'est une intervention peut-être humaine ou pas. Là,
mais... Oui, mais c'est juste que le film n'a pas le choix de le représenter.
Oui, parce qu'il n'y a pas de narration non-stop.
C'est ça, mais dans le livre, tu es comme « c'est quoi ?» Tu sais, c'est des dents qui vont, tu sais, puis là,
il te l'explique selon la vision du lapin.
C'est ça, fait que ça rend ça extrêmement intéressant parce que t'es juste dans c'est une menace démoniaque, là. T'es comme, what the fuck is this,
t'sais, mais c'est la grue.
C'est ça.
Puis
ça va de même aussi avec Plague Dogs, mais Plague Dogs est un peu plus près de, on dirait, puis ça, c'est un des trucs que je veux proposer par l'émission, c'est que on dirait que les chiens, de par leur proximité à l'homme, comprend un peu plus. Tu sais, la notion de master revient. La notion de... Tu sais, il est plus en train de dire il dit qu'il essaye de fuir la piscine de métal.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est comme au début qu'on le voit dans le film, que c'est aussi décrit. C'est the silver bath, je pense, ou un truc comme ça. La description est vraiment plus... Puis les livres d'Adam sont extrêmement conséquents avec cette proximité-là des animaux. Parce que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, ils comprennent un peu plus. Ils suivent un peu plus. C'est les white coats, c'est pas les white sticks. T'sais, ils voient autre chose. Puis même que suite à la première journée, quand ils s'échappent dans Plague Dogs, on va revenir au synopsis tantôt, ils trouvent la nature, puis ils pensent qu'il s'est passé quelque chose à l'humanité. Il est comme, non, il n'y a pas de maison. Il n'y a plus de rue. Qu'est-ce qui se passe? Ils doivent avoir quitté ou quelque chose comme ça. Donc, Plague Dog, c'est l'histoire de Snitter et Rolf, qui sont deux chiens qui s'échappent d'un centre d'expérimentation et qui doivent survivre en nature, en se faisant chasser. Dans le livre, c'est incertain s'ils ont la peste ou pas. Dans le film, il n'y a pas de... Il n'y a aucun moment où on met en doute cette rumeur-là.
Non, on le met en doute.
On le met en doute OK, c'est bon, c'est ça, je t'ai...
À cause, c'est la journaliste qui... En fait, peut-être pour aller plus large que ça, dans Plague Dog, le film s'ouvre avec des animaux dans un centre de recherche, d'expérimentation, en fait, sur les animaux, où ils font des tests... assez épouvantable, merci. Les quatre premières minutes du film, c'est un chien qui est envoyé dans une tank d'eau et qui laisse comme le pour faire des tests d'endurance, voir combien de temps il est capable avant de se noyer. Puis une fois qu'il se noie puis qu'il touche le fond, là, il ramène puis il réanime et on recommence le lendemain. Donc, des chiens qui subissent ça pendant des semaines et des mois. C'est épouvantable. Et ensuite, l'autre chien qui, à deux, vont s'échapper de ce centre-là. Lui, il y a des tests qui sont faits sur lui. On voit qu'il y a une cicatrice sur le dessus de la tête, puis un morceau de la tête qui est comme un petit peu à l'air libre, si on veut. Et où il y a un pansement, c'est pas clair, mais dans tous les cas, on fait des tests sur lui. On a joué beaucoup sur son cerveau pour faire en sorte qu'il devienne très confus par rapport au subjectif et à l'objectif, ce qui fait qu'il ça devient un animal extrêmement confus sur ce qu'il vit, ce qui est présentement là, ce qui est ses souvenirs, ce qui est pas ses souvenirs, ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Et donc ils sont constamment en souffrance. L'un va avoir des traumas, qui a peur de l'eau, qui se méfie des humains. L'autre, qui s'est fait jouer dans la tête, lui a un souvenir d'avoir vécu avec des humains et donc c'est à quel point il y a une possibilité que ça soit bien. Et ces deux-là s'échappent. Les deux sont l'opposé l'un de l'autre dans leurs forces et leurs faiblesses et vont juste tout faire pour se sauver et se rendre jusqu'à ce qu'ils trouvent The Isle of Dog, que justement Snitter dit que ça existe et qu'il faut le trouver. Et encore là, lui aussi se base sur des visions qu'il a. Donc moi, je trouve ça intéressant que les deux films, on a un personnage qui a des visions et l'autre qui croit à cette vision-là et la suit. Et dans les deux cas, c'est ces personnages-là qui ont des visions ou qui ont des par rapport à ce qu'il faut faire ou où est-ce qu'il faut se sauver. Ils sont extrêmement anxieux et limite schizophrènes. Il y a quelque chose d'extrêmement angoissant dans ces personnages-là et dans leur cheminement. Autant dans Watership Down que le lapin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il pète des crises d'anxiété par bout, puis à la limite, il est schizo avec ses visions-là. Pourquoi qu'il y a une vision que le terrier va se faire? Tu sais, c'est quoi? Ça vient d'où, cette affaire-là? Même chose avec The Plague Dog. Pourquoi il y a cette vision-là d'une île à chien? Faut se rendre là, puis nanana, puis il y a quelque chose de terrible qui va arriver. Puis il y a comme des ultra-sens de menace potentielle. Fait que t'as tout le temps cette idée de menace qui est là. Et dans The Plague Dog, bien sûr, c'est ça, ils vont traverser un labo de recherche expérimentale sur les animaux qui est quelque part en campagne. Donc, ils voyagent à travers campagne, ferme, se nourrissent de ce qu'ils peuvent, sont extrêmement maigres et souffrent. Beaucoup des répercussions que font ce mode de vie-là versus les êtres humains qui vont les croiser, qui veulent les tasser de leur ferme, qui veulent les tuer parce qu'ils pensent qu'ils ont la peste, parce qu'à un moment donné, il y a une journaliste qui va répandre un peu cette rumeur-là, qu'ils ont potentiellement la peste, ou une peste en particulier, qui aurait été développée par ce labo-là. C'est pas clair à 100% si c'est elle qui répand la nouvelle ou pas, mais tu sais, on joue avec cette idée-là qu'on sait pas, fait que ça ajoute à la tension. Et donc c'est vraiment souffrant, c'est terrible. Et moi, dès les premières minutes, j'avais vu Watership Down il y a longtemps, je l'ai revisité pour l'émission. The Plague Dog, j'avais vu des extraits. Mais là, je vais juste faire une parenthèse pour faire un petit lien avec ma vie personnelle et mon adolescence. Parce que j'ai été marqué par des images quand j'étais jeune adolescent. J'aime encore beaucoup le groupe canadien Skinny Poppy. Et
c'est ça que je suis allé placer pour la fin de l'émission.
Okay. Et j'écoutais beaucoup les vidéos aussi qu'ils faisaient. Et c'était beaucoup des montages de films. Ils étaient forts là-dessus. Puis et beaucoup faire de sampling de films. Je l'ai peut-être déjà répété. Mais Skinny Poppy est un groupe qui m'a beaucoup allumé sur le cinéma par rapport à les samplings qu'ils utilisaient et les extraits de films qu'ils mettaient dans leurs vidéos. Et il y a une vidéo complète qui s'appelle Texture, qui est sur l'album Vivisexix, qui essentiellement, si le groupe s'appelle Skinny Poppy, on parle d'un chien extrêmement maigre. C'est beaucoup à cause de ces films-là. Ils ont été marqués autant par les livres que les films. Et le vidéo est essentiellement un montage de scènes du film de Plague Dogs avec beaucoup d'extraits audio dans les pièces musicales de l'album. Donc c'est quelque chose qui moi qui étais déjà sensible à ça étant jeune et aimant les animaux, qui le suit encore, ça m'avait beaucoup marqué la vidéo. Je trouvais ça que ça avait l'air fondamentalement cruel comme film d'animation. Et quand j'ai revu puis je savais que c'était The Plague Dog, je l'avais noté, c'était un film que je voulais voir un jour, c'était juste pas facilement accessible. Puis éventuellement je l'ai oublié, puis là pour l'émission je me suis dit ça serait parfait. Et Jean-Michel a trouvé une super belle copie que j'ai pu regarder. Et dès les premières minutes, tout de suite, là, c'était un flashback de « Oh my God, OK, c'est le vidéo, puis c'est tout tiré du vidéo. » Puis je reconnaissais plein d'extraits audio, donc ça m'avait beaucoup marqué. Et
c'est pour ça que tu as été très affecté, c'est ça que tu me disais? Tu as été super ébranlé par le début, toi.
Oui, à un moment donné, j'ai vraiment failli l'arrêter, en fait, parce qu'au-delà du fait que ça me rappelait, le vidéo, c'était plus le fait que je trouvais ça choc comme image. C'était les chiens en train de se... Puis tu sais, il faut le dire, c'est pas des chiens dessinés cute, le Bambi. C'est quelque chose d'assez réaliste comme dessin et comme animation. Donc oui, de voir les chiens se faire drainer dans l'eau jusqu'à temps qu'ils tombent dans le fond et tout ça. Puis un autre se faire jouer dans la tête. À un moment donné, j'étais comme « My God, c'est tough! »
C'est la rotoscopie.
Ouais, ça fait
le mouvement est très naturel. Puis
non, c'est venu me chercher. Moi, je trouvais ça pas que je trouvais ça pas bon. Je trouvais ça juste difficile parce que c'était dur comme sujet. Mais à un moment donné, dès qu'il s'échappe, je me suis dit bon, ben ça y est, ils vont au moins courir ou quelque chose. Mais ouais, la vie va être dure pas mal pour eux autres. Même si c'est le plus tough du film, je dirais pour ceux qui sont sensibles à ce qui se fait comme cruauté envers les animaux, ben c'est sûr que les 5 premières minutes vont être tough, mais le film veut justement mettre un peu un visuel sur, oui, ce qui se passe. Bon, à l'époque où le film a été fait, avant aussi, et encore aujourd'hui, énormément de tests se font sur les animaux pour toutes sortes de raisons. Dans certains cas, on pourrait questionner l'utilité des tests ou à quel point c'est nécessaire. Et dans d'autres cas, peut-être que c'est un incontournable pour développer un truc contre une maladie. J'ai aucune idée. Rendu là, on peut jouer avec cette idée-là, mais c'est sûr que moi, je suis extrêmement sensible à ça. Donc oui, ça m'a beaucoup bouleversé, en fait. Mm-hmm. Puis au-delà de ça, je pense que c'est le mood aussi général du film, le personnage qui justement le chien où pour lequel on a joué dans sa tête et qui commence à mélanger subjectif objectif, puis il y a quelque chose d'extrêmement épouvantable dans ce personnage là que je trouvais souffrant tout le long. Puis mais il y a plein de choses. J'aimais beaucoup l'idée que dès qu'il s'échappe, tu l'as expliqué d'une manière en disant qu'ils savent plus où sont les maisons. Ben, en fait, le chien, il y en a un qui a jamais vécu l'être humain autrement que dans la clinique. Mm-hmm. Et l'autre a eu une vie avant. Donc, lui, il y a des flashs de c'était quoi la vie avec un maître, puis tu te fais donner à manger et tout ça. Puis, lui, il y a des flashs de ça. Fait que quand il sort, il comprend pas où sont les maisons, où c'est plus pareil comme avant, c'est juste des champs. Et la façon que je le sentais quand je voyais le film, j'avais vraiment l'impression, puis tu sais, j'avais pas lu le livre, j'avais pas lu l'histoire, j'avais juste droppé le film de même. Puis quand il sortait, j'étais comme « Ah wow, on est comme dans un futur post-apocalyptique ».
Absolument,
ça me donnait vraiment cette impression-là, c'est tellement tout le temps noir, foncé, puis il y a rien, il y a juste des fermes presque, il y a même des usines abandonnées par bout, mais j'étais comme « On dirait que... » Puis après ça s'appelait The Plague Dog. Peut-être que ça se passe durant une invasion de peste, puis là, il n'y a plus personne, puis là, les chiens vont juste essayer de trouver qu'est-ce qui se passe.
Mais ça l'est, c'est ça. C'est quand qu'ils disent ça, c'est un film post-apocalyptique pour eux autres.
Ouais.
C'est
ouais,
ça qui est extraordinaire. C'est que quand qu'ils constatent, ils sont où toutes les maisons, t'es comme « Oh shit! » Toi, pour toi, la civilisation est faite. Puis plus tard, quand qu'il commence à faire froid, tu sais, qu'il dit genre « Wow, les White Coats sont tellement intelligents, ils font en sorte qu'il fait froid pour plus qu'on soit capable de vivre. Ils voient la météo comme une construction qui est faite par les humains.
Parce que ça, c'est le chien qui a juste vécu
dans le
labo d'expérimentation.
Ouais, c'est Snitter.
Mais dans tous les cas, il y a cet effet-là.
Le post-apocalyptique, je suis totalement d'accord. Je l'ai senti de la même manière.
Pis c'est vrai que le film est du point de vue des chiens, parce que autant visuellement, c'est juste ça qu'on voit, ce que le chien voit. Ben, dans le sens où on va voir les chiens, mais dès qu'on voit ce qu'il regarde, c'est toujours à vision de chien. On voit jamais le visage vraiment des humains. On voit les pieds, on voit des morceaux. On les entend au loin, mais c'est pas clair. Des fois, il y a des petits bouts de narration qui sont mis. Puis c'est essentiellement des êtres humains qui vont se parler entre eux, comme la journaliste. On les voit pas, mais on entend ce qu'ils se disent.
Ouais.
Ou on entend la radio, des trucs météo qui se disent... Pas météo, pardon, mais des annonces de ce qui se passe avec les chiens qui se sont échappés et tout ça, parce que ça sème la terreur. Donc, on a comme des bribes d'informations, puis ça, c'est vraiment pour le spectateur, c'est pas pour les chiens nécessairement, pour qu'on fasse un peu des liens, puis qu'on suive un peu ce qui se passe, ce qui est peut-être au niveau de la difficulté de l'adaptation, mais oui, c'était cette idée-là un peu post-apocalyptique, parce qu'ils sont seuls tout le long, donc on est seul un peu avec eux tout le long, jusqu'à la toute fin, donc c'est assez...
il y a The Todd, là.
Le renard. Le renard,
qui est comme un peu
un peu comme dans Watership Down, ils vont trouver l'oiseau. Dans celui-là, ils trouvent un renard qui va leur donner des trucs de survie en échange de profiter un peu de leur...
C'est un personnage post-apocalyptique.
Ouais.
Incroyable, là.
Ouais,
The Todd, c'est vraiment ça.
C'est vrai.
Mais c'est drôle parce que dans le roman, on a beaucoup plus d'instances de l'humanité. On entend beaucoup plus parler de qu'est-ce qui se passe. Puis même que c'est dès le début, je l'ai noté, là, mais c'est... On le voit, On a des explications sur c'est quoi les expérimentations qui sont faites. Fait que le livre est beaucoup moins pour enfants que Watership Down Lee parce que on nous explique ce qu'il appelle le formulaire, la formule KG2. Et c'est quoi leur implication, puis c'est pourquoi est-ce que c'est dans cette place-là, et ainsi de suite. Tout ça est bien expliqué dans le roman. Le truc que moi je trouve qui est beaucoup plus anxiogène dans le film, c'est que, comme tu disais, une fois de temps en temps, on a des détails par rapport à ce qui est en train de se passer. La majorité des détails par rapport au point de vue humain de l'histoire, on nous les livre telles qu'elles sont entendues par un singe emprisonné dans une canne de métal.
Oui, c'est vrai, on revoit ce singe-là occasionnellement, oui.
Et moi, c'est... Tu sais, toute la peur là, que tu dis que tu as eue, moi, c'est ce singe-là, man.
Oui.
Qui est dans une canne.
Puis qui entend rien. Enfin, pas qu'il entend rien, tout. Mais je veux dire qu'il voit rien.
Il voit rien.
Il est bloqué, oui, c'est ça.
C'est essentiellement ça. Il y a toujours... Ben, pas toujours. Mais ben, en fait, le plan est toujours le même. À quelques moments, on coupe à ce singe-là, qui est dans une canne d'isolation, qui entend les humains parler autour de lui, et qui essaye de... Essentiellement, là, si je déduis ou si j'interprète ses gestes, il essaye de se creuser le crâne pour faire sortir son cerveau.
Ouais.
C'est ça, il a toujours les mains sur le crâne, puis il est toujours en train...
Il est pas bien, là. Il n'y a pas personne qui a l'air bien là-dedans. C'est ceux qui ont vu l'île du docteur Moreau, peu importe quelle version. Là, c'est un peu ça, le laboratoire. Là, plein d'animaux qui ont en cage sur lesquels tu testes des choses, puis qui ont l'air à souffrir, puis qui veulent juste crisser leur camp.
Oui, ben ça, c'est un rappel. Tu parlais des influences tantôt, notamment par rapport à Skinny Puppy. C'est évident que la bande dessinée de Grant Morrison et Frank Quitely, We Three, provient de Plague Dogs. Sauf que...
Ah, les animaux, oui. Ouais. Okay. Oui, oui, oui.
Les animaux, on a fait des expériences sur eux, sauf que dans We Three, c'est des animaux cybernétiques.
Oui,
mais
c'est
ça.
Ouais.
En fait, ils deviennent des armes dans We Three. Ouais, c'est un chat, un chien et un lapin
qui sont des
Robocop, là, essentiellement. On essaie de les rattraper parce qu'ils sont des dangers pour l'humanité.
Exactement, oui.
C'est
ouais,
la
ouais.
même affaire ah, que Plague Dogs. C'est la même affaire.
Puis même dans le... Quand la journaliste fait son enquête par rapport à l'usine, enfin, on devine ça par la narration, on comprend qu'elle a peut-être fait des liens avec des recherches militaires ou des choses comme ça, donc on sait pas jusqu'à quel... Qu'est-ce que les chiens ont, jusqu'à quel point...
Oui, parce qu'elle pose la question, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire des expériences sur la peste bulbonique qui est éradiquée en Angleterre depuis très longtemps? Pourquoi est-ce qu'on est en train de ramener cette affaire-là?
Un des deux chiens est plus fort que la norme, il y a quelque chose qui fait qu'il est endurant, beaucoup. C'est le chien qui après plusieurs mois de se faire jeter dans l'eau, toffe la run, puis il meurt jamais. Là. Mais, non, il y a toutes sortes de trucs de même. Et le livre, en fait, se termine beaucoup différemment du film.
Ouais.
Je sais pas si tu avais été jusque-là dans ta lecture.
Je me suis pas rendu à... Je n'ai pas terminé
sans l'avoir, sans l'avoir lu, j'ai fait un petit peu une comparative sur ce qui s'était écrit là-dessus, et parce que le film est particulièrement sombre dans sa finale. Ceux qui... Je sais pas si ça spoil ou quoi, là. Je veux dire, c'est pas une surprise. Ça s'en va logiquement.
Le temps. Il faut qu'on arrête de mentionner le fait qu'on spoil.
Dans tous les cas,
je pense que vous le savez.
Le film, dès le début, vous allez voir, ça va juste vers là. Et c'est peut-être justement ce qui est souvent admiré du film, c'est que le réalisateur a été jusqu'au bout de la vision de l'auteur, qui, lui, a pas pu aller jusqu'au bout de sa vision dans le livre parce que l'éditeur
la maison d'édition
imposait une finale plus happy end parce qu'il trouvait que ça avait pas de sens de finir ça bleak comme ça, un livre qui est avec des animaux. Ce qui fait que dans le livre, on lui a imposé de faire de faire cette finale-là qui a fait qu'il a développé une... parce que les chiens se sauvent éventuellement et réussissent à se glisser dans un train de touristes qui était en arrêt proche d'une gare, donc ils arrivent à aller assez loin, ils se rendent jusqu'à j'imagine le bord de la mer, en fait ils sont sur le bord de l'eau, je sais pas si c'est un lac ou la mer ou quoi, c'est pas clair, mais ils se jettent dans l'eau et les militaires qui les poursuivent arrivent pas nécessairement à les rattraper rendus là.
Hélicoptère et tout, là, il faut le dire.
Il y a un hélicoptère et tout, ouais, c'est vrai, c'est quand même c'est intense, c'est une poursuite. Et,
je le dis pas pour rien, tu vois.
Et les deux chiens vont se mettre à nager et à nager et à nager dans l'eau pour trouver cette espèce l'île des chiens que Snitter, je crois, a comme vision tout le temps qu'il faut se rendre jusque-là, on peut y arriver. Et tu les vois souffrir et commencer à caler dans l'eau. Et là, ça te ramène à la première image du film. Là, on fait une boucle vers la façon qu'ils ont été autant entraînés que traumatisés, ils vont potentiellement finir de la même manière qu'ils ont commencé, c'est-à-dire en se noyant dans l'eau, ou ils ont tellement été bien entraînés qu'ils vont probablement toffer la run jusqu'à ce qu'ils trouvent une petite île et que ça va être leur île au chien. Et là, on peut le voir, comme, mais c'est sûr que c'est quand même très sombre. On les voit comme un peu plongés, ils voient le truc au loin, c'est pas clair, et ça s'arrête comme ça. Et dans le livre, se font pêcher par un bateau de pêcheurs, je crois, et se font ramener, et le maître de...
Ralph retrouve son maître.
Qui était finalement pas mort, parce que oui, il y a un traumatisme d'avoir potentiellement fait tuer... d'avoir potentiellement été la cause de la mort de son maître, et il est très traumatisé psychologiquement par ça. Finalement, son maître n'était pas mort, et le recherchait, et il se retrouve, ça a l'air
pire de
même. Et même, on voit même jusqu'à mettre un des scientifiques réaliser ce qu'il fait suite à toute l'enquête que le journaliste fait, et il se dit, je vais sauver le singe, parce que le singe...
ouais, pardon, parce que le singe...
Oui, non,
il sauve le singe, en fait.
Il se passe des choses dans le studio. En fait, c'est ça. Un des scientifiques réalise ce qu'il a fait et se trouve donc méchant et décide de prendre ce fameux singe enfermé dans le tank et l'amener chez eux et devenir son singe adoptif. Donc, ça finit cute un peu. Je pense pas qu'il l'a mis cute, mais disons qu'il nous faut une résolution à tous les niveaux, on dirait.
Ouais.
Contrairement au film qui va jusqu'au bout de cette vision-là de ce qui peut devenir au chien.
Toi, OK, déjà que quand t'as commencé le film, tu t'es immédiatement dit, genre, OK, Secret of Nim.
Il y a quelque chose là. À cause de l'intro, parce que les deux films commencent exactement de la même manière. Les deux films commencent avec une vision de l'extérieur, avec une narration. Je sais pas s'il y a une narration dans Plague Doc, mais tu sais, dans Secret of Nim, il y a une narration au début avec le laboratoire, puis on voit les rats, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et Plague Doc commence de la même affaire. Fait que moi, j'ai vraiment tout de suite fait le lien. J'ai fait, ah wow, c'est Secret of Nim, mais.
Hardcore.
Hardcore. Beaucoup plus hardcore, oui.
Maintenant, la fin. Où c'est que tu as déjà vu cette fin-là? C'est peut-être une grosse colle, OK? Mais moi, ce matin, en le réécoutant, Plague Dog, ça fait trois fois que je l'écoute pour l'émission, c'est la fin de Point Break. C'est exactement la même fin que Point Break, hélicoptère inclus. Là où on chasse le personnage de Patrick Swayze et qu'il finit par prendre sa planche de surf et part dans l'eau et il disparaît tranquillement, puis eux autres sont comme, soit que c'est la plus grande escapade puis qu'il va mourir sous ces conditions dans l'eau, ou soit que c'est le plus important surfeur et qu'il va se rendre au bord.
Oui, oui, oui.
C'est la même fin de Point Break. Puis j'ai trouvé ça vraiment... je veux rétroactivement relire toute Plague Dogs comme si c'était Point Break.
Ouais.
Sauf que il y a quand même des limites, mais c'est exactement la même fin. L'autre truc que je voulais poser comme question, parce que j'y arrive pas non plus à une conclusion ou à une réponse qui m'enchante ou qui c'est une réponse qui me satisferait, là, je l'ai pas. Pourquoi est-ce que tous les humains qui sont en contact avec ces animaux-là meurent?
Pas nécessairement tout.
Non.
Mais... ils vont dans des fermes, ils mangent ils peuvent manger une poule ou quelque chose, puis la personne va les chasser, puis ils vont s'en aller. Ou à un moment donné, il y en a un qui va mettre le chien dans une grange, puis là, le chien va s'échapper, mais la personne ne meurt pas nécessairement.
Mais peut-être qu'il s'étouffe, sort comme un brocoli après.
Peut-être.
Sérieux, le maître qui se fait frapper par un char en sauvant son chien,
ouais.
Le coup de shotgun
mais
en
face.
C'est
pas à cause du chien.
Ben, en essayant de le sauver, en fait, il tasse.
C'est pas des chiens meurtriers. Là. Non, mais c'est ça, c'est toujours des accidents. Ben, dans ces deux cas-là, il y a un accident qui implique que le chien a fait quelque chose. C'est comme un chien énervé qui ferait tomber quelque chose sur la tête de quelqu'un, puis là, il meurt à cause de ça. C'est too bad, mais oui, là, après ça, t'as le chien qui est...
Mais là, ils ont peut-être la peste aussi, tu sais. Fait que c'est ils vont peut-être...
Parce être que... la cause de la perte de l'humanité.
Peut-être!
Non, tout à fait. Mais c'est ce qui fait que moi, quand j'écoutais ça, puis que je me disais, OK, parce qu'à un moment donné, on fait comprendre que c'était potentiellement une rumeur lancée par la journaliste pour Pour faire du tabloïd, là, mais...
Et aussi pour les rendre des...
responsables de quelque chose.
Ouais, mais tu sais, pour dire, comme, il y a une raison pourquoi est-ce qu'il faut que l'armée s'implique.
Ouais. Ce qui fait du sens aussi, là.
Ouais, parce que sinon, deux hélicoptères qui vont pourchasser deux chiens.
Pourquoi faire la totale comme ça pour rechercher un chien, c'est qu'il y a quelque chose. Donc oui, ils ont potentiellement la peste, ils vont potentiellement être la perte de l'humanité, ou peut-être qu'ils vont mourir et ne pas être la perte de l'humanité. C'est pour ça que moi, tout le long, quand je regardais ça, puis que je le pensais comme ça, là, c'est, les chiens ont tout le long, je me disais, OK, ils ont potentiellement la peste. Fait que tout le long, tu veux autant qu'ils s'en sortent que tu te dis, ouais, mais en même temps, s'ils s'en sortent, c'est potentiellement la perte de l'humanité. Faudrait peut-être pas qu'ils se rendent jusqu'à la civilisation. Faudrait peut-être que quelqu'un les pogne pour vrai puis les tue. Mais on nous dit tellement pas, on fait exprès de ne pas nous le mettre clair pour qu'on soit comme bien rangé dans notre position puis que ça nous dérange plus. On reste tout le temps entre les deux.
Oui, autant,
puis le fait que le film soit selon la vision des chiens, bien sûr, on embarque facilement dans leur caractère et tout. Fait que c'est vraiment... ça joue beaucoup avec les dilemmes qui peuvent nous venir pendant ce visionnement-là.
C'est ça, parce que tu voulais-tu qu'il se fasse pogner?
Je pense que je me faisais pas encore d'opinion. Je faisais juste être stressé tout le long.
Ouais, okay.
C'était vraiment un film de suspense aussi. Mais j'étais... Oui, parce que ben c'est surtout que tu voudrais qu'ils trouvent leur île des chiens, limite. Une petite île isolée, ils pourraient au pire avoir la peste puis être
ouais,
correct, là.
Mais c'est, ouais.
Mais on sait pas en même temps si c'est ça.
Fait que t'es content avec la fin du livre.
Mais en même temps, la fin. Non, moi, j'aime les fins bleak, là.
C'est ça.
Du film.
Oui, exactement, mais la fin du livre, tu sais, c'est ça que tu dis. Tu dis, ben, tu sais, je veux pas qu'il se fasse pogner, j'aspire à ce qu'il devienne, qu'il soit correct à la fin.
Ouais.
Ils sont corrects à la fin du livre.
Oui, mais.
Mais c'est trop naïf.
S'il aurait fait ça dans le film, j'aurais probablement fait, ah, c'est con, ils viennent de gâcher le film.
Ouais.
Ça serait trop radicalement un switch. Je trouve que le film faut au moins jusqu'au bout de ce qu'il fait. Et nous donne cette impression à la fin de nous laisser décider ce qui va arriver à la fin.
Mm-hmm.
Rendu là, c'est comment on le perçoit. Mais c'est vrai que oui, il y a des morts qui se font à cause des chiens.
Oui.
Mais on est tellement du point de vue des chiens qu'à la limite, quand ça arrive, je le voyais vraiment comme un accident. Puis ça me dérange. Je suivais tellement le chien que c'est comme whatever. Le gars, il meurt. Puis c'est dommage.
C'est ça qui est extraordinaire.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'homme qui meurt, je trouve pas qu'il mérite de mourir. C'est sûr, il veut les aider.
Ouais.
C'est un accident. C'est plein d'accidents plates comme ça. Le film, le maître qui meurt à cause que le chien veut le tasser, mais qui finalement le pousse.
Ouais.
Le gars qui a sa carabine puis qui essaie de s'approcher du chien pour lui dire qu'est-ce qui t'est arrivé, blablabla. Puis qui,
le chien pile sa gâchette
puis ça y tire d'en face. Le fait aussi qu'à un moment donné, puis ça, c'est une scène qui a été tournée, mais qui a été retirée du montage final, mais qui se trouve dans le livre. L'homme qui... je sais plus si c'est cet homme-là... Non, c'est un autre homme qui les chasse, qui à un moment donné tombe d'une falaise.
Oui, c'est sniper, ouais.
Ben, à un moment donné, ces chiens-là descendent de la falaise et ils ont tellement faim qu'ils n'ont pas le choix. Les deux mangent l'homme.
Fait que
tu les vois manger l'homme dans le livre. Mais dans le film, ça a été tourné, mais finalement, les producteurs ont décidé que c'est la petite touche trop... On veut pas voir les chiens manger des humains, fait qu'on enlève ça. Ce qui fait qu'on voit juste la shot quand le monde, les autres humains débarquent puis qu'ils voient de haut l'homme plein de sang à terre.
Ouais.
Mais bon, tu vois, en même temps, on les aurait vus manger l'humain, j'aurais fait, ben écoute, ils ont faim. Je comprends.
Pour
moi, c'est juste de la logique. Un chien va faire ça. Je veux dire, un chien, pour moi, c'est pas un animal cute de Disney. Là. C'est quelque chose qui peut te faire mal, puis c'est quelque chose qui peut être smart.
Ça peut bouffer ta face.
Ça dépend dans quelle situation qu'il est, puis c'est quoi son background. Mais c'est... Fait que je voyais ça plus comme la dure réalité de la vie que de l'injustice ou quelque chose de même.
Mais c'est parce
à la base, la seule truc que je trouvais qui était... épouvantable dans le film, c'est
l'expérimentation,
point de départ de qu'est-ce qui fait que ces chiens-là sont comme ça et qu'est-ce qui fait que là ils se retrouvent dans la rue avec rien. Parce que tu peux aussi voir le film comme deux itinérants qui se promènent puis qui essaient de trouver de la bouffe puis qui se font juste chasser par la société constamment parce qu'ils ont pas d'affaires là puis parce qu'ils ont des bébêtes puis
Ouais, puis pue.
Ouais.
Mais tu vois, c'est ça, c'est parce que t'as donné exactement la réponse que je voulais. Je voulais vraiment entendre ça, parce que le truc avec les récits de Richard Adams, c'est que parce que tu prends le point de vue des animaux, l'humanité devient un peu inconséquente. Puis inconsequential, c'est un peu... ça se traduit pas tout à fait aussi bien en français, mais c'est cette idée-là que... comme je parlais tantôt des récits d'Ishmael, de Tom O'Quinn, tu sais, les livres Ishmael, My Ishmael, puis Ishmael AI, c'est un homme qui rentre dans un appartement pour parler avec un gorille, parce que le gorille peut lui raconter l'histoire du monde, pas du point de vue des humains. Parce que nous autres, on a un point de vue sur l'histoire du monde, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça, le point de vue. Puis, Plague Dogs a ça dans le film et dans le livre, que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que parce que tes personnages ne sont pas humains et parce que la logique est si cohérente, tu finis par trouver effectivement que l'humanité, c'est un peu quelque chose qui a sa place dans l'ordre naturel et qu'ils sont pas vraiment en position de hiérarchie. Ça va de même avec les fourmis de Weber. Ça va de même avec Demain les chiens de Clifford D. Simak. T'sais, c'est des trucs où je trouve ça très intéressant, ces œuvres-là qui prennent le point de vue des animaux parce que ça rabaisse un peu le statut précieux de l'humanité. Ça fait en sorte que ouais, il y a des accidents. C'est pas un meurtre. De temps en temps, il y a un accident. Ouais, ça arrive pas toujours aux bonnes personnes.
Ouais, ouais.
Ça arrive pas toujours aux mauvaises personnes. Des fois, il y a des affaires comme ça. Tu te fais tirer une balle en face. Là,
ben, c'est pour ça que, justement, comme tu dis, ces lapins-là qui dans Watership Down, qui dans le livre, qui sont dodus et qui vivent bien parce qu'ils vivent dans un environnement où il n'y a pas de menace. Dans ma tête, c'est comme ce que je disais, c'est de la... de l'élevage biologique.
Ben, c'est une forme biologique.
Naturelle, ouais. Tu sais, comme ils font juste se faire nourrir et tout. Puis de temps en temps, selon les besoins, c'est pas industriel, là, c'est pas à outrance pour faire de la vente, là, c'est juste pour les besoins de cette ferme-là.
Ben, il faut manger du
on va en manger un de temps en temps, ou on va s'en servir pour autre chose. Mais tu sais, ça va dans l'ordre naturel des choses et ils l'acceptent comme ça.
Ouais.
Le côté, ils ont de l'air off là, en arrière des yeux, comme tu disais, dans ma tête, c'est juste qu'ils n'ont pas l'air stressés et alertes,
ouais,
comme tous les lapins sont, parce qu'ils sont constamment des proies de quelque chose. Dans cet environnement-là, ils ne sont pas. Ce qui est quand même aussi surprenant, de trouver une ferme où pour X raison, tu n'as pas de renard, tu n'as pas rien, là, ouais. Part, là, mais,
ben, ils ont trouvé un petit
ouais, ils sont clos, là, c'est dans un petit truc clos, en tout cas.
Fait qu'il y a comme des... C'est des grandes réussites, mais aussi des trucs qui sont extrêmement traumatisants. Bon, évidemment, les films pour enfants ont le potentiel de plus terrifier parce que tu les écoutes plus jeunes. Je sais pas si c'est le cas. Je sais pas si tu as vu ça toi aussi, mais ça a l'air que Plague Dog, c'est le plus long film d'animation britannique.
Hein?
Ouais, c'est le longest British animation film. Il y a pas de film de plus que 120 minutes. Ben, ouais,
c'est pas 2 heures.
Non, il est 100 minutes. Il est 1h40.
Ouais. Ouais.
Dans l'histoire de l'animation britannique.
Okay. Hey,
je sais pas. Peut-être que c'était à l'époque ou je sais pas trop. Mais, ben, si tu combines ça avec. Tu sais, le fait que c'est des grands, grands, grands classiques de la littérature. Mm-hmm. C'est des trucs, comme je disais en introduction, qui veulent continuellement être réadaptés. Et c'est des potentiels. Ils ont beaucoup de choses à dire.
Oui, oui, oui. Oui, on a enlevé quelques couches potentielles à survoler les films autant que le livre, mais on peut faire des liens de tout, avec Watership Down,
oui.
Sur justement les organisations en société.
C'est ça. Excuse-moi, c'est parce que j'essayais de trouver c'était quoi le lien que j'essayais de faire, puis j'étais comme un peu encouragé. T'as-tu vu Okja?
Oui.
Ça a-tu rapport? C'est parce que je trouve ça bizarre qu'on est dans un climat où il y a le film de Bong Joon-ho qui vient de sortir, qui a cette espèce d'idée-là.
Il y a des liens à faire. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est autre chose, mais le film... En fait, oui, d'une certaine manière, le film de Bong Joon-ho, mis plus peut-être au goût du jour d'une certaine manière, c'est d'une certaine manière,
ouais.
Parce que c'est plein d'autres choses, mais d'une certaine manière, c'est aussi une attaque sur... sur justement les élevages industriels, les expérimentations sur les animaux autant que sur l'ADN et sur les potentielles répercussions de tout ça. Et c'est le fun parce que oui, c'est un cri d'alarme un peu, même s'il est enveloppé dans quelque chose de très divertissant et humoristique, plus là, le film Okja,
ah ouais.
Il est quand même aussi enveloppé de quelque chose qui... Je dirais pas que c'est un film familial, mais c'est un film qui est avec le personnage central qui est un enfant, qui se prend aussi bien comme un film, oui, qu'un enfant peut découvrir puis se faire du fun avec, qu'un adulte, et d'avoir choisi d'envelopper cette espèce d'attaque,
mm-hmm.
Si on veut, contre une forme d'exploitation industrielle, c'est dans cette enveloppe-là, c'est une belle stratégie. Et de le mettre sur Netflix aussi, qui est une ouais. Plateforme vraiment vue beaucoup, c'est d'autant plus important parce que il va rejoindre énormément de monde. il va peut-être faire mijoter des réflexions chez beaucoup de personnes. Au-delà de divertir, qui fonctionne déjà bien avec le film, je veux dire, oui, ça se prend comme un bon divertissement, mais oui, les réflexions sont là. Plague Dog est beaucoup plus dur, beaucoup plus rough, ce qui fait que le film n'a pas nécessairement marché commercialement, puis il est juste sorti en salle, donc à part peut-être après ça les distributions vidéo, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a peut-être pas rejoint autant, il n'a pas fait autant l'impact qui clairement de ce que l'auteur veut clairement faire.
Oui, mais le leg est encore là.
Le leg est là et se poursuit et c'est génial. Ouais. Mais c'est intéressant que tu aies fait le lien Okja, je l'avais pas allumé, mais c'est vrai que oui, quand j'ai vu Okja, moi tout de suite, c'est venu me chercher par son sujet à cause de ça, même si c'est enveloppé d'une manière complètement différente et que ça, à quelque part ça s'en va vers autre chose aussi là, mais oui, il y a un fond là, un noyau là qui les intentions semblent les mêmes, même si encore une fois un peu comme Plague Dog et Watership Down, ça parle aussi de d'autres choses. Mm-hmm.
Autant que War of the Planet of the Apes aussi.
Ouais.
On est dans un drôle de climat parce que il y a aussi ça.
Ouais.
C'est parce que il y a Project Nim. Rod Potter provient de Project Nim, qui est le documentaire à propos de Coco, le singe qui est capable de signer. Puis cette idée là qu'on développe une intelligence. Où on développe des attributs par rapport aux animaux. Je trouve qu'on est dans le climat pour ces trucs-là. Mm-hmm. Puis quand on a proposé l'émission, j'étais comme, OK, on va l'essayer. Puis là, je me rends compte que dans les films populaires ou les films qui créent un émoi actuellement,
excellent
on lien. Parle mm-hmm. beaucoup du point de vue des animaux par rapport à comment qu'on les traite.
Ouais.
Puis,
c'est parfait comme lien qu'on pouvait faire jusqu'à ce qui se fait aujourd'hui. Bravo.
T'es un génie, David. On va aller écouter Texture.
OK.
De Skinny Puppy.
Parfait.
Parce que je t'aime fort.
I hope you're...
Hein? Quoi?
Faut que tu passes ce petit bout-là.
Try to find the name before you start or repeat.